Je vous souhaite à tous vraiment que vous soyez bénis dans l'Esprit Saint par notre Jésus, Jésus-Christ. Je voudrais saluer tous ceux que je n'ai pas eu salués aujourd'hui. Donc je pense à Rémi, Claude, Lydie, puis peut-être aussi d'autres personnes que j'ai oubliées. Donc le message que je vais faire aujourd'hui, c'est la continuité de ce que j'ai fait le mois dernier. Et c'est toujours Claude Hood. Et c'était donc une fois, on avait vu une fois avec un refus. Et aujourd'hui, ça va être aussi une fois avec un refus. Et je vais prolonger avec une foi qui retrouve et qui rétablit. Alors, le message que je vais dire aujourd'hui, vous, pour certains, vous l'avez déjà entendu, puisque c'était un message que j'avais donné, un extrait, au mois d'août, pendant que vous étiez absent, mais vous êtes tous là, très nombreux, donc c'est bien. Ce que j'ai retenu de la louange aujourd'hui, c'est que Jésus veut nous sauver tous. Tous, sans exception. Je ne sais pas comment il va faire, mais c'est pour ça aussi, je crois, pour nous croyants, nous avons un devoir de sauver ceux qui ne le sont pas, qui ne connaissent pas Jésus. Par notre attitude, par notre message, par la voix, par la parole qu'on peut donner à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Alors nous avons vu avec Claude Hood que Abraham a une foi avec un refus qui lui permet de recevoir le surnaturel. Je vous rappelle que Dieu appela Abraham à sortir de la maison de son père. Abraham et son père sont installés dans une ville qui s'appelle Charan. Charan, ça veut dire en hébreu lieu de sécheresse ou lieu du petit fruit. Abraham a une foi avec un refus. Cela veut dire que par la foi à l'appel de Dieu, il refuse de rester auprès de son père à Charan. Ce refus lui permet quoi ? Il lui permet de recevoir le surnaturel. En effet, la parole de Dieu dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu deviendras une source de bénédiction. » Imaginez Abraham, qui n'est pas encore Abraham, qui reçoit un message de Dieu qui lui dit ça. C'est vraiment du surnaturel, lui qui n'est rien ou pas grand-chose, qui est à Charan, où ses affaires vont bien. Mais on lui dit, non, tu vas t'en aller vers un devenir que tu ne connais pas. Mais je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. De la même façon qu'Abraham, nous sommes nous aussi appelés par Dieu à sortir de ce lieu qui se nomme Charan. C'est une façon spirituelle de voir les choses. Il y a des endroits dans notre vie, des lieux de sécheresse, des lieux de petits fruits, des petits fruits spirituels qui sont là, qui s'incrustent. Dieu nous appelle à quitter cela. Et avec la foi en l'appel de Dieu, refusons de rester à Charan, refusons de rester dans ces lieux de petits fruits, dans ces lieux de sécheresse. Dieu nous appelle pour qu'à notre tour, nous recevions le surnaturel, c'est-à-dire les promesses que Dieu a fait chacun pour chacun d'entre nous. Nous allons voir maintenant une deuxième dimension de cette foi avec un refus. C'est la foi qui résiste dans le lieu secret. Alors maintenant, je vais lire un texte, Genèse 14. Vous pouvez le garder parce que c'est un texte sur lequel je vais revenir. Donc Genèse 14, versets 17 à 24. Donc ça, c'est un message que j'ai déjà donné au mois d'août. Mais c'est un message important. Alors, c'est un message qui concerne Abraham. Et il faut se rendre compte que dans les versets que je vais vous dire, il y a une histoire avant. Et cette histoire, c'est le roi de Melchisédek et le roi de Salem qui ont subi des pertes importantes. Il y a eu une guerre. et ils ont perdu cette guerre. Voilà. Genèse 14, 17 à 24, ou 18 à 24. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Puissant, Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu le Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil, ni même un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshkol et Amré. Eux, ils auront leur part. » Le roi de Sodome est Abraham. « Garde les biens, je veux les âmes. » Cela signifie « Donne-toi entièrement à l'aspect temporel, à l'aspect matériel. Pense au développement de ta carrière. Ne te consacre qu'aux aspects et aux dimensions de la vie qui sont éphémères. » Voilà ce que propose le roi de Sodome. Quand il lui propose « Garde les biens, je veux les âmes. » Et en fait, en faisant ça, si vous acceptez, il vole notre âme. On peut dire qu'Abraham est dans une vallée de décision. Alors, il faut être précis. Cette histoire se passe à un endroit, dans une vallée. Abraham vient de faire cette guerre. Il l'a remportée après que le roi de Melchisédek et le roi de Sodome l'aient perdu. Il l'a remporté et il se retrouve dans une vallée. Et cette vallée, on pourrait l'appeler une vallée de décision. Vous allez voir pourquoi. Parce que dans cette vallée, pour nous aussi, ça peut être une vallée de décision dans notre vie personnelle. Chaque jour, nous avons des opportunités à prendre des décisions. À chaque instant. Et vous pouvez refuser ou accepter. On est libre. Des refus de la part de notre éducation, notre connaissance de ce qui est bon et mauvais. Des refus de foi, car nous croyons à la parole de Dieu et que nous suivons ses commandements. Dans la vallée de décision, il y a deux chemins. Deux possibilités réelles, elles sont véritables et éternelles dans leurs conséquences. Jésus nous dit « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, s'il se détruit et se ruine lui-même ? » Dans la vallée d'Abraham se trouve aussi le roi de Salem. Le roi de Salem apparaît simultanément avec le roi de Sodome, ils sont ensemble. Le roi de Salem est le roi de la cité de Dieu, Jérusalem. Alors, Jérusalem, pour un hébreu, dans l'Ancien Testament, il représente ce qui est de Dieu, éternel, pur, bon, sans tache, tout ce qui est rattaché à Dieu, tout-puissant. C'est le roi majestueux. Il représente ça. Le roi de Jérusalem est le sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il est une apparition prophétique et annonciatrice du Christ, le Fils de Dieu. Et ça, ce que je viens de dire, c'est pour les théologiens. On va reprendre la lecture de Genèse 14, 18 à 23. Je vais faire verset par verset et donner quelques explications supplémentaires. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter le pain et le vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Le roi de Salem agit dans une capacité de sacrificateur du Dieu Très-Haut, offrant de partager le pain et le vin avec Abraham. Verset 19. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Puissant, le Maître du ciel et de la terre. En bénissant Abraham, Melchisédek met Dieu au centre du partage du pain et du vin. Dieu est présent. Verset 20. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham donna la dîme de tout. En donnant la dîme de ses biens, du travail de ses mains et du fruit de ses victoires, de ses combats, il vient de remporter une victoire. Abraham disait : je suis devant Dieu. Ce n'était pas Melchisédek, l'homme, mais ce qu'il représentait. Je suis devant Dieu. Je lui rends simplement une infime partie de tout ce qu'il m'a donné. Le roi de Sodome, verset 21, dit à Abraham : donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Ici, le roi de Sodome agit comme un tentateur : donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Ce que je vous disais tout à l'heure. Verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome : je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le Maître de la ciel et de la terre. Lorsqu'Abraham lève les mains, c'est un geste d'abandon, de foi, de confiance et de vulnérabilité. Il faut imaginer qu'Abraham, il vient de gagner une guerre. Il est puissant. Il est en haut de sa gloire. Et devant ces deux rois, il est humble. Verset 23. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil, ni même un cordeau de sandales, afin que ne puisse pas dire : c'est moi qui ai enrichi Abraham. Abraham, par la foi qu'il a mis en Dieu, refuse la proposition du roi de Sodome, et ce refus avec la foi revient directement à Dieu avec sincérité. Dans la vallée d'Abraham se trouve aussi le roi de Salem. Pardon, je me trompe de feuille. Donc, le mot sincérité. Le mot sincérité, il est tiré du latin, qui signifie, dans sa forme la plus pure, sans cire. Dans l'Antiquité, une petite histoire, les commerçants vendaient des statues, et quand il y en avait une qui était cassée, oula, ça coûte cher. On réparait la statue avec de la cire, on la collait, on repeignait le tout et on vendait l'ensemble bien cher. C'était une tromperie. Donc, pour éviter ça, on a légiféré et celui qui vendait une statue avec cire, il était passible de mort. Donc, il y avait une étiquette, on va dire, on pourrait voir ça maintenant aujourd'hui, sur les statues sans cire, garantie sans cire, sincère. Vous comprenez? Soyez sincère. Le mot sincère, voilà. Soyez sincère. Même si vous avez des fêlures, même si vous avez des choses qui sont pas belles en vous, soyez sincère envers Dieu. C'est important. Ce sont des zones d'ombre, si vous les laissez cacher, vous pouvez être attaqué par ça. Soyez sincère. Un autre verset, Hébreux 10, 19 à 25. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen de Jésus, du sang de Jésus, pardon, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. C'est pour ça que je vous dis ce verset. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Par lui, au moyen de son sang, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire et de faire nos demandes aux prières. Je demande au Père de nous inspirer, d'augmenter notre foi, pour que nous puissions par la foi refuser de rester à Charan, ce lieu de chasseresse, de refuser tout ce qui ne vient pas de lui, d'être sincère. Cependant, dans la vie des hommes et des femmes, il y a des obstacles, des difficultés, des drames. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 11 septembre 2001 ? Est-ce que vous avez un souvenir ? Jacques s'en souvient. Voilà. Eh bien, dis un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Exactement. Ben, c'est pareil, c'est la même expérience. Ce jour-là, les tours du World Trade Center n'ont plus existé. C'était la fin. Moi, je me souviens, j'étais commercial. Je me souviens exactement. J'étais avec un professeur, quelqu'un qui me coachait dans mon travail. J'étais en voiture, on entend les informations. La première tour est touchée. On va voir notre client. On revient, on a fini notre client. Ça s'est pas très bien passé. La deuxième tour était touchée. Je suis rentré chez moi, j'ai regardé la télé. Voilà. Les familles qui ont été touchées par ce drame, tous ont dit, nous avons tout perdu. Je n'ai plus rien. Notre vie ne sera plus jamais la même. Nous ne pourrons jamais survivre à tout cela. Les tours du World Trade Center nous ont tous blessés au niveau mondial. Ça nous a tous marqués. Nous avions un sentiment de perte et de désespoir. Et pourtant, il y a des tours qui tombent dans la vie de monsieur et de madame tout le monde. Des tours silencieuses, des tours qui s'écroulent. Pour ces personnes qui vivent cela, c'est un effondrement intérieur, avec un déchirement, un sentiment de perte que les mots ne peuvent pas exprimer. Cela peut être la disparition d'un être cher, un rêve, un espoir ou encore la perte de l'innocence, la capacité de faire confiance ou même d'aimer, la maladie. Quelle que soit votre perte, quelle que soit que vous ayez été dérobé ou arraché, il existe une foi qui retrouve et qui rétablit. Dieu dit à chaque humain qui se tourne vers lui avec foi, je peux rétablir ce qui a été détruit, te permettre de retrouver ce que tu as perdu ou tout ce qui t'a été enlevé. Si un ouragan a tout dévasté chez vous, ou si des tours se sont effondrées dans votre vie, nous avons une bonne nouvelle. Jésus nous dit, je viens sur terre pour vous, je meurs et je ressuscite. Je prends sur moi tout ce qui est mort, tout ce qui est péché, tout ce qui est perdu. La résurrection de Jésus nous offre la possibilité à chacun de nous ressusciter. Ressusciter à n'importe quel moment, je dirais. Robert nous disait tout à l'heure, pour ceux qui avaient décroché, qui n'étaient plus dans la foi aujourd'hui, ils avaient cette possibilité de renouer avec le Christ, avec Dieu. C'est aussi ça, ressusciter. C'est pas forcément à la fin. La fin, c'est aussi peut-être ressusciter à chaque instant de notre vie quand on est tombé. Alors cela est disponible pour celui qui apprend à vivre dans la foi avec lui, avec Jésus. J'aimerais vous parler maintenant du témoignage de Jenelle Guzman Macmillan. Elle se trouvait dans les tours du World Trade Center. Au matin du 11 septembre, elle travaillait au 64e étage de la tour nord du World Trade Center quand tout à coup, l'édifice se mit à trembler. Elle pense ainsi qu'avec ses collègues à un tremblement de terre en bas de Manhattan. Elle regarde par la fenêtre et elle pouvait voir des bouts de papier, des débris qui descendaient du haut de la tour. Un employé cria alors qu'un avion venait de percuter la tour. Et dans sa tête, à elle, elle s'imaginait qu'il s'agissait d'un petit avion, un petit avion privé. Elle ne voyait pas le réel danger. Elle était même surprise de voir que des gens se dirigent vers les ascenseurs avec leurs effets personnels. Un homme avait déjà appelé la station des autorités, située en bas de la tour. Tout va bien, vous pouvez rester là, aucun problème. Dans l'immeuble, c'était la confusion, partir ou pas partir. Elle discute avec une amie. Elle téléphone à Roger, son compagnon. Elle lui dit qu'elle va sortir. Elle se donne rendez-vous en bas, dans un lieu habituel. Les ascenseurs sont en panne. Il y a de la fumée dans les escaliers. Que faire? La peur. S'aventurer soi-même, elle n'a pas le courage. Elle décide donc de rester là, où elle se trouve, au 64e étage, avec des architectes qui sont là, des ingénieurs, des commis de bureau. En tout, 15 personnes. On allume la télé. En haut de la tour, il voit par la télé, le haut de la tour est en feu. On parle d'une possibilité d'attaque terroriste. Tout à coup, l'édifice commence à osciller et à trembler. Elle ne parvenait pas à y croire. Un deuxième avion venait de percuter la tour sud. Et elle s'écrie, mais l'édifice va tomber. Mais il y a un ingénieur qui était là, un homme assez âgé. Non, 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 tout a été calculé. Ça ne peut pas s'effondrer, c'est pas possible. La fumée commence alors à s'infiltrer à leur étage. On décide de mettre des gros rubans de scotch autour des portes, tandis que d'autres couraient pour aller mouiller des pulls, des manteaux pour empêcher que la fumée s'infiltre. Un homme dit à un moment donné, mais attendez les gars, ça fait une heure que nous sommes là et personne n'est venu nous secourir. Il faut partir. Et malgré cela, l'ingénieur qui était âgé refusait de partir. C'est à ce moment-là, un bruit énorme. La tour bouge, oscille et tremble. On enlève les rubans, on se dirige vers l'escalier B. Jenelle et son amie Rosa, main dans la main. Elle pleure, elle tremble, ils descendent. 63, 62, 60, 50, 49. Ils aperçoivent des pompiers. On leur dit, ils se dirigent vers l'étage, ils vont vers les étages, ils vont sauver les gens. Et les pompiers disent, il faut descendre, vous pouvez descendre. Il faut aller vite, il faut descendre. 30e étage, 15e étage, Jenelle a mal aux pieds, elle a des petits souliers. 13e étage, elle enlève ses chaussures. Des chaussures à talons aiguilles, ça lui fait trop mal. Alors qu'elle se penche pour enlever ses souliers, brusquement, retentit un énorme boum. Tout devient noir. Elle ressent comme si quelque chose venait de la frapper à la poitrine. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Rosa et elle basculent en arrière contre le mur, puis elles tombent en avant sur le plancher. Tout est en train de s'écrouler autour d'eux. Tout se passe comme dans un rêve. Genelle essaie de se relever, mais quelque chose la frappe. Elle retombe sur le plancher. Il fait tellement noir, les yeux et la bouche remplis de poussière et de débris. 110 étages s'écroulaient et elle était en train d'être enterrée vivante. Le bruit assourdissant, puis tout redevient silencieux. Genelle est vivante, couchée sur le côté droit, la jambe droite coincée, la tête ne pouvant bouger car ses tresses sont bloquées sous le béton. Genelle savait qu'elle allait mourir. Personne ne serait capable de la retrouver. Elle appelle Rosa. Pas de réponse. Elle entend la voix d'un homme crier « Au secours !» et sa voix devient de plus en plus faible et puis plus rien. Genelle pense à ses enfants, à sa famille, à son fiancé Roger qui l'attend dehors. Mais le plus important, elle pensait à ce qui lui arriverait après la mort. Elle ne savait pas comment pardonner. Elle était sûre qu'elle irait en enfer. Elle perdit connaissance à plusieurs reprises. Et à chaque réveil, elle essayait de bouger les débris avec sa main gauche, la seule partie de son corps qui était restée libre. Elle sent sa tête enflée. Elle se mit à prier. « Dieu, je ne peux plus endurer cette douleur. Aide-moi à libérer ma tête coincée sous le béton. Aide-moi. » Elle tire d'un coup sec vers le haut et ses tresses s'arrachent de son cuir chevelu. Elle saigne, mais elle est libérée. Avec sa main libre, elle explore les environs. Elle comprend qu'elle est sous l'escalier, qu'elle sent quelque chose de doux. C'est la jambe d'un homme. Elle n'est même pas effrayée. Au contraire, elle est heureuse de sentir quelque chose de doux. Puis elle s'endort. À son réveil, elle prie. « Dieu, il faut que tu m'aides. Montre-moi un signe, montre-moi un miracle. » « Donne-moi une deuxième chance, s'il te plaît, sauve ma vie. » Genelle, dans son cœur, ressent la présence de Dieu. Elle continue à prier. « Seigneur, donne-moi juste une deuxième chance. Je te promets de faire ta volonté. » Elle s'endort. Elle se réveille, elle entend des bruits de bip-bip, des conversations, des taki-walki. Elle crie. Elle est entendue par les secouristes. « Oui, aidez-moi, mon nom est Genelle, je suis au 13e étage. » Genelle voit une faible lueur qui s'infiltre à travers un petit trou. Elle tend son bras le plus loin possible dans ce trou. Mais les secouristes ne voient pas la main. Elle perd connaissance. À son réveil, elle entend les secouristes, ils sont juste au-dessus. Elle prie « S'il te plaît, Dieu, montre-moi ce miracle, maintenant, s'il te plaît, aide-moi. » Oui, c'est ce que tu fais, oui. Oui, Odette, c'est ta prière aussi. Aide-moi, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi. Elle sort donc sa main aussi loin que possible. Et cette fois, quelqu'un la saisit. Genelle, je te tiens. Tout va bien. Mon nom est Paul. Je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que tu sortes de là. « Oh, merci, mon Dieu !» C'est son cri. « Oh, merci, mon Dieu !» Tout le temps de l'intervention, Paul ne va pas cesser de parler à Genelle et de tenir sa main. Paul la lâcha au moment où deux hommes la prirent par les épaules et la mirent sur une civière et elle passa d'une personne à une autre en faisant la chaîne. Quand le soleil frappa son visage, elle vit des pompiers et des secouristes alignés le long d'un passage et tous applaudissaient. Cela faisait 27 heures que les tours s'étaient écrasées. Elles s'étaient écroulées. Ground zéro, plus rien. Le 13e étage n'existait pas. Sur les 15 personnes qui avaient essayé de s'enfuir, seules 2 personnes ont survécu. La deuxième personne, c'est la personne qui avait dit « il faut partir ». Genelle est la dernière personne survivante à sortir des décombres du World Trade Center. Je ne peux pas ici donner toute la totalité du message parce qu'il dure encore et c'est formidable. Je peux dire aujourd'hui que Genelle, les engagements qu'elle a pris devant Dieu, elle l'a pris, elle les a fait, elle les a tenus. C'est une femme qui a quitté son charan. Elle n'était pas pratiquante. Elle croyait un petit peu, mais pas pratiquante. Aujourd'hui, elle a une église. Elle a quitté son charan. Elle loue et elle rend grâce à Dieu dans sa vie. C'est une femme qui refuse comme Abraham tout ce qui n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, elle s'est mariée. Elle vivait comme beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, sans être mariée. C'est une femme sincère qui aujourd'hui témoigne de ce qu'elle a vécu et de sa conversion. Elle témoigne à la radio, à la télé. Par la foi, Genelle a retrouvé la vie et elle a rebâti sa vie. Une chose qu'on peut retenir de Genelle, que moi je retiens, c'est sa prière. S'il te plaît, sauve ma vie. S'il te plaît, aide-moi. J'ai appris hier, puisque hier j'étais au cours d'hébreu, initiation, un mot qu'on connaît tous. Je vais d'abord dire la situation. Je vais parler de Jésus quand il rentre à Jérusalem. Il est sur un ânon et la foule l'acclame. Est-ce que vous vous souvenez ce que crie la foule ? Hosanna, Hosanna. Voilà. Or, j'ai appris quelque chose. C'est pas tout à fait Hosanna qui est crié. C'est Hosanna. Hosanna. Et ça veut dire quelque chose. Hosanna, ça veut rien dire. On ne sait pas ce que ça veut dire, Hosanna. Mais Hosanna, ça veut dire sauve, s'il te plaît. Sauve, s'il te plaît. C'est une prière pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous sauver tous. Si vous êtes vraiment dans la difficulté, si vous êtes une tour qui s'est effondrée, un ouragan qui est passé, la maladie, Hosanna, s'il te plaît, sauve-nous. Sauve, s'il te plaît. Soyez bénis. Seigneur, voilà, je te demande de sauver nos âmes. Genelle, elle a été entendue, je crois, parce que justement, elle, dans son écrasement, elle pensait à tout le monde, à tous ses amis, à ses enfants, à son mari, enfin, à son compagnon. Mais je crois qu'une chose qui a fait la différence, c'est qu'elle voulait pardonner. Voilà, Seigneur, elle voulait pardonner. Tu lui as donné cette deuxième chance pour qu'elle puisse pardonner, changer de vie. Seigneur, je voudrais donner le pardon à tous ceux à qui j'ai fait mal. Pardon pour mes manquements, Seigneur. Voilà, cette prière peut être la vôtre aussi, si vous le voulez. Pardon pour tous ces manquements. Pardon aussi parce que parfois j'ai tracé une iniquité, c'est-à-dire que j'ai envoyé des gens sur des mauvaises routes. Voilà, pardon, Seigneur. Viens, sauve-nous. Hosanna, Hosanna. Amen.